L'écrivaine, poétesse et traductrice Ryoko Sekiguchi est avec nous ce matin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous de si bonne heure un samedi matin. Ryoko Sekiguchi, vous jonglez avec les mots comme avec les mets. Vous écrivez beaucoup sur la gastronomie que vous appréciez particulièrement. Vous vivez entre les cultures japonaises et françaises. Vous avez donc écrit des livres aussi bien sur la saveur du fade en comparaison avec l'umami japonais que sur le nagori. On va y revenir, cette nostalgie de la saison qui vient nous quitter. C'était un livre paru chez POL et qui vient tout juste de paraître en poche, en folio. En février dernier, vous avez fait paraître une petite conférence pour Bayard intitulée « La terre est une marmite ». Si bien que nous allons ensemble, si vous le voulez bien, Ryoko Sekiguchi, parler aussi bien de cuisine, de gastronomie, de nourriture, quoi, que de livres. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander comment vous traversez cette période, oui, aussi bien en tant qu'écrivaine qu'en tant que amatrice de cuisine, disons.
Alors, ce moment de confinement, de 2 mois de confinement, mais je restais une observatrice de ce qui se passe à la fois au Japon et en France sur la nourriture. Et ce que j'ai remarqué, c'était surtout les charges symboliques de l'alimentation et la nourriture étaient mises en avant dans les tout pays. Et je pense que dans beaucoup de pays, vous savez, par exemple, au Japon, il y a une créature mythique qui était considérée que
Ryoko Sekiguchi,
en fait, la pandémie, donc c'est une superstition depuis le 18e siècle, et ça a fait son réapparition. Les gens commencent à dessiner cette créature et les pâtissiers commencent à faire des gâteaux en forme de cette créature, et aussi donc mettre les étiquettes sur le saké. Et voyez, c'est à la fois, par exemple, c'est une superstition, mais en même temps, les gens avaient besoin aussi de faire refléter ce symbole de la nourriture protectrice pour nous, par exemple.
Oui, par exemple. Et puis en France, on a vu beaucoup de nos concitoyens pétrir du pain ou même faire germer, faire vivre du levain, ou planter des graines, planter des semis, symboliques là encore.
Oui. Oui, je pense que c'est cette envie, je pense, de faire naître une petite vie. Et je pense que, vous savez, en fait, ça, j'ai retenu 3 mots clés. J'ai presque envie de faire un livre en dialoguant avec 3 chefs. C'est la cuisine de lumière, c'est la cuisine de confiance. Et c'est la cuisine de prière. La cuisine de prière, j'ai reçu ce mot en parlant avec un chef japonais de Kyoto et qui a un restaurant à New York, mais la cuisine des moines. Il dit, le moment de repas, c'est le moment de prière. Ce n'est pas pour autant, ce n'est pas la religion. Non, en fait, la cuisine de prière, c'est le moment où on pense à la terre, on pense au produit, on pense au producteur qui nous a apporté ces denrées. La cuisine de lumière, je l'ai reçue par un chef de Bethléem qui fait la cuisine palestinienne, qui dit la cuisine de lumière, c'est la cuisine de restaurant. C'est que en ce moment, vous savez, en fait, bon, dans les villes, quand il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de lumière. Concrètement, la nuit, la ville est triste. Et aussi la lumière, ça veut dire mettre le feu allumé et apporter des nourritures chaudes aux clients. Et la cuisine de confiance, je l'ai eu avec un chef italien, Fulvio Pierangelini, et à qui j'ai dit, mais Fulvio, j'ai l'impression que non seulement tu fais confiance aux produits, mais j'ai l'impression que les produits te font confiance.
Ryoko Sekiguchi.
C'est un peu bizarre de dire ça, mais oui, mais que quand vous voyez c'est pas seulement les chefs, mais quand vous voyez dans la cuisine, dans votre cuisine, les légumes, les poissons, les viandes, c'est qu'en quelque sorte, on fait en sorte que qu'ils sont contents d'être dans votre cuisine. De là vient le respect des produits, le respect de son gâchis. Je pense que ce n'est pas seulement l'éthique écologique, mais je pense que qu'il y a une envie profonde qui est en train de naître aussi, qui était une bonne chose, disons la presque la seule bonne chose de ce confinement.
Oui, vous dites presque la seule bonne chose de ce confinement. En même temps, déjà, vous avez trouvé trois mots-clés, lumière, confiance et prière, dites-vous. Est-ce que ça veut dire, Ryoko Sekiguchi, que pour vous, ce qui restera de ces deux mois et demi, alors deux mois de confinement, mais bien plus longue réflexion, c'est précisément une remise en question et une interrogation ou une réflexion sur ce que manger veut dire, sur comment on se nourrit. Vous avez écrit un beau texte en ligne dans AOC au début du confinement où vous écrivez « Nous aurons compris le rôle de la cuisine, l'une des rares fenêtres vers le monde extérieur ».
Oui, et je pense que je ne suis pas du tout la seule. Je pense que tout le monde qui était confiné, tous les Français, je pense, d'une manière ou l'autre, sont posés cette question. Et aussi, ce que j'ai découvert, vrai que dans le monde de la gastronomie, le monde de la cuisine, mais je me suis rendu compte que le confinement, c'était une sorte de laboratoire de cinq sens, parce que les cinq sens changent, et j'étais affamée des odeurs qui viennent de la ville, parce que vous savez, en fait, quand on est à la maison, il n'y a que des odeurs prévisibles. Alors que vous croisez les gens dans la ville, il y a des odeurs de métro, il y a des odeurs de boutique, il y a des odeurs, en fait, on est en vie avec beaucoup de d'informations. Et en fait, ces odeurs, en fait, ce n'est pas séparé de la cuisine, on est le réceptacle du monde extérieur, et que sans lequel la vie n'existe pas.
Affamé des odeurs, ça veut dire aussi que vous n'avez sans doute pas perdu l'odorat, vous n'avez pas perdu le goût. Vous savez que c'est deux symptômes liés qui sont des symptômes discriminants et qui sont des symptômes significatifs de la Covid-19, Ryoko Sekiguchi. C'est quelque chose quand même de très particulier. Hein, ceux qui ont perdu le goût et l'odeur, le goût et l'odorat s'en souviennent encore comme quelque chose de particulièrement éprouvant.
Oui, il paraît que à la fois, on est en train de, enfin, on a tendance à négliger l'odorat, parce que je pense que parmi les cinq sens, tout le monde va privilégier surtout la vision, mais la vue, mais en fait, sans l'odorat, il n'y a pas de, on perd les couleurs de la vie, et c'est vrai que moi, pendant le confinement, j'ai acheté des herbes aromatiques, et je le décorais comme les bouquets de fleurs, parce qu'on ne trouvait pas les fleurs, et j'étais en train de renifler toutes les odeurs qu'on trouve, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que tout est lié. En fait, ce n'est pas seulement la cuisine, mais c'est aussi les fleuristes, les fleurs et la ville, et je pense que c'est ça, en fait, la cuisine. On ne peut pas parler de seulement de la cuisine, mais c'est lié de notre vie, c'est lié de tout ce qui sont vivants, en fait.
On a redécouvert que l'alimentation, la cuisine, était à la fois un bien économique et social. Ça, on le voit de façon aiguë avec les pertes majeures engendrées par la fermeture des restaurants, notamment. Mais peut-être aussi à quel point l'alimentation et la cuisine sont un bien culturel, Ryoko Sekiguchi.
Ah oui, bien sûr, et c'est vrai qu'à la fois, donc j'observais cette situation, donc à la fois en France et à la fois au Japon, et au Japon, comme le sujet du gouvernement est plus faible par rapport à la France. Je m'inquiète beaucoup à ce qui va se passer dans la culture justement culinaire japonaise. Les restaurateurs sont en difficulté beaucoup, bien plus grave. Bon, bien sûr ici aussi, mais et je discute très régulièrement avec les journalistes gastronomiques japonais pour savoir qu'est-ce qu'on peut bien faire.
Vous écrivez dans la conversation mondiale proposée par Emmanuel Laurentin et son équipe sur franceculture.fr, Yoko Sekiguchi, qu'au Japon, justement, on dit que c'est en mai, à la fin du printemps, que l'on constate le plus de syndromes dépressifs et de troubles émotionnels. On y est, fin mai, à la fin du printemps. Est-ce qu'on va regretter cette saison comme on regrette la saison qui vient de nous quitter? C'est le propre de Nagori. Vous avez écrit un livre intitulé Nagori. Est-ce qu'il peut exister pour vous un Nagori de ces 2 mois qu'on vient de passer?
Drôle parce que qu'il y a une actrice donc qui m'a envoyé justement qui venait de lire Anagoli et qui m'a fait ce commentaire que qu'il y avait qu'elle ressentait le Nagoli de confinement. Bon, c'est vrai que c'est étrange de dire que qu'on est nostalgique de confinement parce que bon, c'était une période bien pénible, je pense, pour tout le monde. Mais en même temps, on peut dire que c'est on était dans un temps qui était arrêté, une sorte de soit de purgatoire, soit dans un cocon. Et depuis 2 semaines, bah, on est de nouveau rejeté dans ce monde dont on ne sait pas s'il est féroce ou s'il y a un espoir. Donc je pense que c'est là où apparaît ce Nagori, une petite nostalgie de temps où tout le monde était dans le ventre de nouveau de maman et on passait le temps à pétrir du pain.
Oui, on peut considérer aussi que ce temps a été suspendu finalement et que la saison du printemps ne fait que commencer. On peut considérer que le printemps arrive maintenant avec le déconfinement.
Ah bah oui, j'espère. Et c'est vrai que quelle joie de pouvoir respirer. Et c'est étrange parce que, enfin, de ma vie d'écrivain fait que pendant le confinement et après le confinement, ma vie n'a pas beaucoup changé. Je suis toujours, enfin, je passe toujours la plupart du temps devant l'écran à écrire, à traduire. Mais du fait que qu'on n'est plus interdit de sortir, c'est, en fait, on nous enlève beaucoup de poids.
Et alors, est-ce que vous vous êtes nourri, Ryoko Sekiguchi, de nuages pendant ce confinement? Vous avez signé un livre aux éditions de l'Épure en août dernier qui s'intitule Le nuage, 10 façons de le préparer, puisque vous dites que le nuage, c'est un ingrédient majeur de la cuisine japonaise. Vous en avez mangé des nuages pendant 2 mois, là?
Ah oui, j'en ai mis dans les. Enfin, oui, bien sûr, je le préparais de 10 façons, de 15 façons. J'ai fait les conserves de nuages, mais parce que tout le monde a constaté le ciel était mais vraiment parfait, impeccable. Les
Vous étiez
parfois
confiné à
quand il y a des
Paris, vous, hein?
nuages, ils étaient mais vraiment. Ah oui, ils étaient bien appétissants. Donc, bah, c'était, je pense que le moment ou jamais d'attraper les nuages et de faire la cuisine. C'est bien, on fait le produit de terroir, n'est-ce pas, en plus.
Vous n'avez pas seulement attrapé des nuages, comme on peut le voir hein, dans ce livre, puisque ce sont des vraies recettes hein, de nuages, évidemment. On pense à un certain nombre de recettes salées et sucrées à base de nuages quand on parle de nuages, Ryoko Sekiguchi, mais vous avez aussi travaillé. Non seulement vous avez écrit, mais vous avez fait des workshops, des ateliers pour le Palazzo Grassi, dans lequel, par exemple, vous proposiez non seulement de réfléchir à ce que manger veut dire, mais vous proposiez d'imaginer le premier plat du déconfinement. Quelle est la valeur de ce premier plat et qu'est-ce que vous avez mangé le 11 mai, si tant est que c'était là le déconfinement pour vous? En quelques secondes, puisqu'il est bientôt
Alors, ça,
7h30.
c'était intéressant. Oui, parce que c'était les Italiens qui ont participé et ils ont dit les grands et les petits le gelato et la pizza. Donc le gelato signifie la vie à l'extérieur et la pizza signifie le repas avec les amis. la convivialité. Et encore une fois, donc la charge symbolique ressort.
Notre invitée est bien chez elle, Ryoko Sekiguchi, écrivaine, poétesse, traductrice, qui écrit aussi bien sur la cuisine, la gastronomie, la nourriture, qui organise des dîners-performances, qui associe toujours les mots et les mets. Ryoko Sekiguchi, votre dernier texte, La Terre est une marmite, apparu chez Bayard, il est sorti en février. Est-ce qu'il a eu le temps d'exister avant que les librairies ferment?
Je pense oui et non, parce que j'ai reçu quand même quelques retours, mais après, bon, bien sûr, ça a bien été confiné. Aussi, la version folio de Nagoli est parue juste au début du confinement, donc ben, il dormait pendant deux mois tranquillement en attendant la réouverture des librairies.
Et que se passe-t-il depuis la réouverture des librairies? Est-ce que vous êtes allé voir si vos livres étaient à nouveau sur les étals des libraires?
Alors oui, à la fois donc j'ai eu quelques articles donc qui parlent de Nagoli donc fort heureusement et que j'ai bien sûr je suis allée chez les libraires que je connais, enfin bien sûr, non seulement pour voir si mes livres existent, mais surtout par la joie, par le plaisir de les retrouver, de voir qu'elles sont bien ouvertes depuis 12 mai.
Vous parliez tout à l'heure de votre vie d'écrivain, Ryoko Sekiguchi. Oui. Cette semaine, un collectif d'auteurs, éditeurs, libraires a demandé à Emmanuel Macron un plan de relance pour le livre qui a été oublié dans le dernier discours du 6 mai. Un collectif d'auteurs et d'autrices ont témoigné de leur côté de la paupérisation de nombre d'écrivains et demandaient que les auteurs et les autrices soient reconnus puisqu'ils n'ont pas de statut d'intermittent. Vous n'avez pas de chômage ni partiel ni rien. Et puis, sur libération.fr, hier soir, un autre collectif d'auteurs et d'autrices demande un statut équivalent aux intermittents. Qu'en pensez-vous?
Alors, je suis bien sûr d'accord avec cet appel, parce que c'est vrai qu'on est souvent les oubliés. Et aussi, je pense que cela vient du fait que les gens ne connaissent pas, en fait, ont du mal à imaginer ce qu'est la vie d'un écrivain. Donc, ils pensent que confinement, pas confinement, on continue à écrire et que notre vie ne change pas. Mais bien sûr, il y a ça de vrai, mais qu'en même temps, il y a beaucoup de gens qui vivent d'ateliers d'écriture, les conférences, les interventions. Moi, de mon côté, j'écris pas mal d'articles dans les périodiques qui, entre temps, certains ont disparu et donc en fait je pense que c'est l'absence comme ça de la réalité de la vie difficile à imaginer par les gens qui fait qu'on était souvent les oubliés du milieu culturel.
Est-ce qu'il y a un statut des auteurs au Japon, pays que vous connaissez très bien?
Ben non, mais c'est aussi pour ça que je suis pas bien placée pour le dire, parce que à la fois je trouve que leur demande donc de nos collègues est tout à fait juste, mais en même temps, bon, au Japon, nous comparons pas, c'est vraiment catastrophique ce qui se passe et non seulement les écrivains, mais aussi dans le domaine de culture, vous savez, ils ne tiennent pas du tout compte de leur importance. Donc ici, même si le socle culturel est mangé petit à petit, je sens quand même la solidarité, le soutien du monde et ailleurs. Donc c'est...
Ryoko Sekiguchi, vous écrivez sur la cuisine beaucoup. Vous traduisez des textes japonais. Le Club des Gourmets, par exemple, était un recueil de textes sur la gastronomie. Je le disais, vous organisez aussi des dîners performances. Quel lien faites-vous entre littérature et cuisine?
Je pense que je suis avant tout la traductrice.
la traductrice dans le sens large de relier les deux mondes, donc soit de deux langues, deux domaines, deux grammaires, qui est le grammaire culinaire et le grammaire littéraire. Et je pense que c'est un métier qui peut être une arme, un outil très fort en temps de pandémie. Parce que, par exemple, là, en ce moment, donc, tout le monde a vécu la même chose, mais d'une façon différente. Et je pense que ce qui était nécessaire, c'est d'échanger des idées, des échanges, des informations, d'autant plus que qu'on ne pouvait pas se déplacer. Et j'ai vu des bienfaits, disons, de l'utilité de traduction, de traducteurs, partout après le confinement, les traducteurs, par exemple, philosophes japonais, continuaient à presque simultanément à traduire par exemple, les textes de Jean-Luc Nancy, le journal de confinement de Vardimuad. Et je pense que c'était vraiment nécessaire et ça va devenir de plus en plus nécessaire.
Et est-ce que vous en avez profité pour relire une énième fois votre livre de chevet, Les Contes de Léopold Chauveau, Ryoko Sekiguchi ?
Ah, oui, oui. Et j'ai eu la chance d'être allée à l'exposition de Léopold Chauveau au musée d'Orsay juste avant le confinement parce que c'est un auteur qui m'est très très cher et donc j'étais ravie de voir cette réévaluation de cet auteur qui était pourtant bien oublié. Donc en fait lui bien avant de temps de coronavirus il était confiné et 80 ans plus tard, en fait, il revit. C'est aussi ça qui est le miracle et le miracle de livre.
Ryoko Sekiguchi, on va se quitter sur votre choix musical. Vous avez choisi une chanson a cappella qui est traditionnellement chantée au Japon pour que la joie règne désormais dans votre jardin. Vous nous en dites un mot?
Oui, c'est une île de Amami, dans le sud de Japon, qui a gardé à la fois son langage, donc dialecte, et sa tradition musicale, parce qu'il y a une gamme spéciale. Et c'est une jeune chanteuse, à peine 20 ans.
Nakamura Mizuki.
Oui, voilà.
On écoute. Un très grand merci Ryoko Sekiguchi, même si la liaison téléphonique était un petit peu difficile ce matin. Merci beaucoup malgré tout d'avoir été avec nous. Je rappelle les titres de quelques-uns de vos derniers ouvrages. Alors Nagori, très très beau texte, littéralement le reste des vagues, hein, qui signifie en japonais la nostalgie de la séparation et surtout de la saison qui vient de nous quitter. Un très beau livre qui vient de paraître en folio. La Terre est une marmite, les petites conférences Florence de Bayard. C'est également en librairie maintenant. Et puis celui d'avant aux éditions de l'Épure, Une petite merveille, Le nuage, 10 façons de le préparer. Un livre que vous avez écrit avec Sugio Yamaguchi et Valentin DeVos.